Une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé.
Weakness, fear, and hopelessness die. Strength, power, and courage will come.
En fait, on envisage la possibilité de se faire insulter, de se faire frapper, de se faire humilier en public.
I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive.
Women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Bonjour, bienvenue à Reine des Terres, le podcast qui décortique le système patriarcal et qui tente d'y survivre. Aujourd'hui, je suis avec Charlie.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler d'intersectionnalité et de racisme. Voilà. De manière très naturelle.
C'est alors, la deuxième fois qu'on enregistre cette introduction. Voilà. On a tout perdu du premier fichier. Voilà, on vous donne les backstage.
Exactement, exactement, les petites coulisses du podcast. Mais comme je suis un boulet du Nomi, j'ai oublié mon chargeur et donc du coup, mon PC s'est éteint. Et donc, heureusement, Charlie, très généreusement, m'a prêté son PC pour que j'y réenregistre. Voilà, voilà, ce podcast est un podcast très très cheap.
On espère que ça va vous plaire.
Hein. Oui,
cet
oui.
Cet épisode, on le porte au fond de nous.
Hein. Oui, c'est important voilà. Pour nous. Clairement, on va vider notre sac là.
Exactement. Bah alors peut-être on fait une petite description.
Ouais,
une petite description, présentation de nous-mêmes. Hein, voilà.
Je t'en prie.
Ça fait très cheap parce que c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre. Du coup, on sait exactement ce qu'on va dire. Alors, on va vous faire une petite description physique de nous parce que vous pouvez pas voir nos jolis minets, mais voilà, vous les devinez. Alors, on va vous aider un peu. Du coup, moi, je suis née dans le corps d'une femme, j'ai une expression de genre plutôt féminine. Je suis métisse, mais je suis pas du tout racisée. Je tiens à le dire, on est évidemment concerné par les questions de racisme et d'intersectionnalité, mais en l'occurrence, moi, c'est pas quelque chose qui se voit énormément, sauf peut-être en été, où du coup, je suis un peu plus mate. Et donc voilà, j'ai les cheveux verts, ce qui n'aide pas à définir mes origines, et j'ai...
Ah mais t'es sûrement féministe si t'as les cheveux verts.
au moins lesbienne.
Voilà, au moins ça.
Et voilà, donc c'est un peu mon expression de genre, plus mon du coup ma couleur de peau, on n'arrive jamais vraiment à me situer. Et toi?
Ok, et donc moi du coup j'ai la peau mate pour le coup, forcément plus mate avec le soleil, du coup ça bronze, mais en soi je suis plus assimilée à une personne asiatique parce que mes yeux sont très très en amande, pas un peu totalement en amande, mais ils ont un peu une expression en amande et souvent on me prend plus pour une chinoise qu'une personne maghrébine.
On me l'a déjà fait aussi.
Ouais, la base. Et j'ai aussi les cheveux très très épais et assez lisses et très très longs aussi. Ouais. Donc on m'a aussi pris pour une indienne.
Ah,
voilà.
Ouais,
souvent en fait on sait pas trop. Hein, genre, voilà.
C'est un peu le lot du métissage.
Voilà.
Mais du coup, quelles sont tes origines?
Je suis d'origine algérienne du coup.
Et moi je suis d'origine marocaine.
Voilà.
Voilà.
Et on pourrait croire qu'on se charrie beaucoup, à part le couscous. Mais... genre clairement nous nous aimons quand même. Beaucoup.
Voilà, il y a zéro guerre culturelle entre nous parce que notre couscous est évidemment supérieur. On rentre dans le jeu des clichés là. Voilà, j'aime beaucoup.
On n'est pas là pour débattre. De toute façon, il n'y a pas de débat parce que le couscous algérien est supérieur.
Non, on n'est surtout pas là pour débattre du fait qu'on subit du racisme. Parce
voilà, c'est ça.
On sait qu'on subit du racisme. Et puis voilà. Donc, mais on va pas. On va parler de beaucoup de formes de racisme
voilà,
qui
c'est
vont
ça.
Pouvoir aussi s'appliquer à du racisme anti-asiatique et du racisme anti-personne noire. Enfin, bref, du racisme dans toute forme. Mais on va pas parler au nom de ces personnes-là, tout simplement parce qu'on n'est pas concernés et que
exactement
et qui l'expliqueront beaucoup mieux. Du coup, on vous invite à vous informer auprès de ces personnes.
C'est ça. Bah après, on va quand même mettre des liens ou des infos pour si vous voulez vous renseigner sur le racisme en général qui touche les personnes asiatiques, les personnes aussi qui sont juives, du coup, les personnes noires. Vraiment, n'hésitez pas à regarder les liens. Mais nous, du coup, on est d'origine maghrébine, donc on va se concentrer sur les discriminations, le système en fait qui nous discrimine en tant que personnes maghrébines. Du coup.
Et on peut dire qu'avec les élections présidentielles qui arrivent, là, on est bien lotis. Hein,
on a des choses à dire.
Hein. Clairement.
Est-ce qu'on pourrait rappeler le terme racisé, les origines du terme, parce que souvent les personnes ne comprennent pas, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans les milieux militants, et en fait on a l'impression que c'est discriminant parce que racisé on pense à race, mais en fait on faut penser à racisme, ça prend en compte les personnes juste qui subissent du racisme, c'est
voilà. tout le monde se reconnaît pas avec le terme racisé, hein, parce que des fois ça cache quelque chose, genre tu vois, on préfère dire noir, on préfère dire arabe, on préfère dire asiatique,
mais
du coup là pour le coup ça nous permet de rassembler toutes ces discriminations là, et notamment toi tu es algérienne, je suis marocaine.
C'est ça.
On subit, on est deux personnes racisées qui subissent du racisme anti, du coup, arabe, on va dire.
Oui, clairement. Hein.
Et on va peut-être parler aussi d'intersectionnalité.
Oui.
Voilà. Bah alors, personnellement, je sais pourquoi j'ai été invitée ce soir.
Oui.
L'intersectionnalité. Comment définir ça? C'est un gros morceau. C'est...
Écoute, parlons de ton cumul, Charlie.
Parlons de mon cumul
que tu vis.
C'est un bon moyen de commencer. Alors moi, du coup, je suis une personne, j'ai dit, comme j'ai pu vous le dire, née dans le corps d'une femme, mais je suis une personne gender fluide. Je suis aussi, du coup, je suis donc arabe du côté de ma mère, je suis métisse, et je suis aussi musulmane. Et en plus de ça, je suis homosexuelle. Je crois que j'ai rien raté. Je suis aussi un peu handicapée. Mais
c'est ça, il a coché toutes les cases. C'est récent. C'est bon, il est prêt pour la vie. Allez.
Même ma mère, elle en peut plus. Elle me dit, choisis, ça fait trop. L'intersectionnalité, tout simplement, c'est le cumul, voilà, de plusieurs facteurs, j'allais dire aggravant, mais c'est pas le mot, de plusieurs facteurs de discrimination en une personne.
C'est ça.
Et c'est un outil en sciences sociales notamment pour parler des individus et pour comprendre les discriminations qui les touchent. Alors c'est pour bien prendre en compte qu'il y a plusieurs facteurs de discrimination. Tu peux être une femme et arabe et en l'occurrence une femme et musulmane et tu vas subir des discriminations qui donc deux des formes de discrimination, mais en plus des formes de discrimination qui, à elles deux, sont des formes de discrimination assez uniques, parce qu'elles se combinent. Par exemple, notamment, toutes les attaques sur les femmes musulmanes avec le voile, par exemple.
C'est ça, exactement, ça se cumule, en fait, les personnes qui sont racisées et qui sont aussi de confession musulmane,
par exemple,
et bah du coup vont subir deux formes d'oppression, deux formes de discrimination.
Mais une forme qui est la liaison entre les deux.
C'est ça.
Et que du coup échappe un peu au système juridique.
C'est ça. Bon, après, pour revenir sur le racisme, en fait, on va pas non plus faire un énorme pavé là-dessus. On le sait que c'est partout. On le sait que dans les films et séries, on a des tropes sur les personnes, du coup, qui sont maghrébines. Mm-hmm. On a souvent peu de représentation des personnages principaux. Souvent, le trope du meilleur ami qui est racisé, ça, on le voit partout.
Le meilleur ami gay aussi.
Ouais, la base. Le meilleur ami qui est pas hétéro, en soi. Genre,
oui, c'est ça.
Soit pas forcément montré en avant, tu vois, qu'il est gay. Pas de bisous gay, quand même. Enfin,
mais
pas
même
exagérer,
les personnages... Il y a très peu de personnages principaux des personnes racisées et même qui cumulent tout simplement. Genre, une personne racisée, c'est soit une personne racisée tout court, soit une personne racisée, soit une personne homosexuelle, soit autre chose. C'est jamais ça. Un mélange des deux ou quoi que ce soit, ou très peu.
Bah clairement, ou alors en fait ça va moins marcher dans les pays. Le film, par exemple, je pense à La Princesse et la Grenouille, en cœur sur ce film, mais la plupart des personnes n'aiment pas ce film, voilà, donc avis controversé, j'adore ce film, mais je sais
bien.
Ah oui, il est trop bien, non mais clairement.
Après,
c'est best.
Je rate peut-être une dimension raciste parce que c'est fait par. Walt Disney, donc oui. De base
c'est ça. Mais en fait ce film n'a pas du tout marché notamment aux États-Unis et je pense que le fait que la personne du coup la princesse en fait soit noire a beaucoup joué et en fait en général les films avec les personnes racisées marchent pas aussi bien en fait.
C'est des films à Oscar, donc on va parler de racisme et tout ça, mais un racisme de surface qui aide pas du tout à avoir du coup le côté systémique.
C'est ça.
Je pense à Green Book, qui est un film qui du coup traite très mal le racisme systémique, en utilisant un bonhomme de paille, tu sais, genre un chauffeur qui est raciste, mais il suffit qu'il discute un peu pour qu'en fait il soit plus.
Ouais, voilà,
alors
c'est
que bon, c'est tiré.
Enfin, voilà, c'est toujours un peu maladroit, on va dire. Qu'est-ce que je veux dire?
Il y a ce problème de représentation et ça me fait venir un exemple du coup dans la publicité par exemple.
Ah
là.
Est-ce que tu veux nous parler d'une anecdote, Charlie?
Oui,
je le rappelle, ton moyen de dire aux blancs que le racisme existe.
Ah oui, oui, oui. C'est une anecdote que j'aime bien raconter aux copains qui du coup essaient de se déconstruire. Moi, l'accès à la représentation. Quand j'ai eu à peu près 6 ans, quand je suis entrée à l'école primaire, j'avais des cheveux absolument atroces parce que mes cheveux n'étaient pas... Il n'y avait pas de produit qui correspondait à mon type de cheveux, donc qui était frisé, un peu rêche, c'était à la limite entre la boucle et le crépus. Et du coup, à l'époque, on utilisait tous des produits pour cheveux secs et abîmés. Donc pas du tout nos cheveux, hein, c'est pas le bon type de cheveux. Mais comme on est dans une société où les gens ont les cheveux relativement lisses,
voilà.
C'est pour les cheveux secs ou abîmés. Et là, arrive la première pub avec un enfant métisse. Et c'était une pub L'Oréal, je crois. Mm-hmm. Et c'est avec huile d'avocat et tout ça. Et j'étais J'adorais cette pub, parce que du coup je voyais un petit enfant métis, tu vois, et surtout bah, on a tous acheté ce produit-là. Dans ma cour de récré, toutes les personnes racisées qui avaient bah, à peu près mon type de cheveux avaient ce produit-là. On sentait tous la même chose, on avait tous le même truc, et si tu l'avais pas, tu étais nulle. C'était vraiment bien, mais c'est vraiment une révolution. Mm-hmm. En l'occurrence, c'est quand j'ai commencé à comprendre que j'avais des boucles, en fait, tout simplement, et pas des cheveux crépus.
Parce que... En fait, c'est ça que je retiens, c'est quand tu dis que les, dans notre société, les personnes qui ont les cheveux lisses sont plus valorisées, c'est qu'en fait, dans la société, on va te faire croire que c'est mal de pas être blanche. Mmh. Genre par exemple le maquillage, moi je sais que j'en ai beaucoup souffert parce que j'ai eu beaucoup d'acné en fait au collège. Ouais. Et du coup genre je cherchais des fonds de teint pour cacher ça et je galérais de ouf et du coup ça t'oublie encore plus mon acné. Yes, vraiment le collège, la meilleure période de ta vie. Parce que vraiment
c'est
genre voilà, c'était ironique au cas où vous l'aurez oublié. Petit avis controversé hein, mais voilà, le collège en général c'est pas bien quoi.
Non, c'est chaud.
Voilà. Je trouvais pas de fond de teint adapté et je comprenais pas, j'étais très malheureuse. Et en fait, maintenant que j'ai le recul et une culture politique, je me rends compte qu'en fait, le fond de teint et le maquillage en général, ouais, pour les personnes racisées, c'est très compliqué. Ça va être plus cher aussi.
Ouais,
de ouf. Et ouais, et du coup, c'est horrible parce que du coup, on a l'impression que ouais, c'est, on n'est pas adapté et on galère à trouver.
Tant qu'on est lancé, peut-être, est-ce qu'on parlerait pas un peu de notre petit ressenti du racisme quotidien pour vous parler un peu de nos vies
Oui, oui, effectivement.
Avant de revenir au féminisme.
Oui, oui, bah écoute, je t'en prie. Si tu veux commencer,
bah, écoute, je sais pas, un exemple peut-être de. Oula, quand on me prend comme l'ami arabe, tu sais.
Ah oui.
C'est genre. Ou quand finalement ça se sait, parce que comme je suis un peu un métis mystère, à M&M's, c'est un vrai terme maintenant. C'est vrai, je te jure.
Ok.
Ça se dit. Et donc maintenant, comme je suis un peu un métis mystère, au bout d'un moment, quand on apprend que je suis arabe, ce qui est pas forcément évident, bah du coup, je deviens la figure de proue de tous les arabes, tu vois. Et du coup, on me sort, mais des dingueries, genre à base de. Encore quand c'est moi qui le fais, mais c'est un peu. Je décribilise avant, tu sais, genre je fais. Genre, je suis un voleur et tout ça et tout. Mais alors des fois on me sort des pépites racistes et du style par exemple j'ai une fille qui m'a dit ah j'ai toujours rêvé de toucher vos cheveux c'est tout ça.
Ouh,
et elle a plongé ses mains bien grasses,
tous les arabes,
elle a plongé ses mains bien grasses dans mes boucles et j'ai été juste trop daguée et c'est horrible, ne faites pas ça s'il vous plaît.
Non mais c'est une ambition respectable de toucher les cheveux de tous les arabes du monde, hein, non, mais... c'est un rêve que tout le monde a hein,
et puis surtout à partir du moment où on était potes, pour elle c'était ok de toucher mes cheveux en mode anti-stress et c'est au collège aussi.
Oh,
horrible, juste avant les épreuves de brevet, tout le monde
sur mes cheveux.
Mais je suis une boule anti-stress à la et ça c'est quelque chose, mais genre juste ne le faites pas, ça nous fait pas plaisir. Et on a les cheveux bouclés, mais ils ne sont pas par exemple bizarres, ni rigolos, ni quoi que ce soit. On a des cheveux bouclés, on a des fous, pas tous en plus, mais on a. En l'occurrence, c'est pas une discrimination positive, tu vois.
Bah, c'est extrêmement gênant en fait, on se sent déshumanisé. Littéralement, bah, tu n'es pas une boule de stress en fait.
Stress, ouais, oui. Genre, une boule de stress,
boule
ça
anti-
je suis.
Je ne pas fait exprès. Une boule anti-stress, je veux dire. En fait, genre, moi, je voudrais revenir aussi sur la phrase qu'on a toujours entendue en tant que personne racisée. Vraiment, dès qu'on se présente, c'est genre...
Tambour.
Voilà. T'es de quelle origine, du coup?
Ah, yes.
La base, vraiment. Genre, à chaque fois, et genre, limite, des fois, moi, je dis mon origine dès le début parce que je veux pas qu'on me casse les couilles avec cette phrase. Ouais. Parce qu'en fait, je sens que quand les gens me disent cette phrase, bah, ils veulent me mettre en avant, mais moi, ça me gêne énormément parce que genre je me sens pas un peu totalement algérienne, tu vois, et genre j'ai pas forcément envie de parler comme ça, allez hop, let's go, de mes origines, enfin c'est quelque chose qui m'appartient en fait. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je veux partager comme ça d'un coup, genre randomement, genre je viens en parler, mais genre quand le contexte s'y porte, si j'ai envie, si je me sens et tout, des fois genre je sais pas, des fois j'ai vécu du racisme et je veux pas forcément en parler, tu vois,
mais c'est
et...
surtout ça se fait pas dans l'autre sens.
Bah
parce
oui
que, tu vois, et ce qui est le plus drôle, c'est quand tu regardes la personne dans les yeux et qu'il a l'air con quand tu lui fais et toi. Alors qu'il est très blanc, tu vois. Donc c'est genre juste... Bon, alors, la personne en question peut avoir des origines, tu vois. Mais, tu vois, nous, on s'est...
J'ai grandi à Cesson-Sévigné, voilà. Écoute, vraiment, ça a été un peu un choc culturel quand je suis arrivée à Rennes, vraiment.
Je dois croire.
Voilà, c'est... voilà.
Il y a beaucoup de métissage ici, mais alors... Oh, le métissage, c'est encore un truc hyper compliqué.
Oui, oui,
parce que du coup, quand on te demande, par exemple, peut-être quelle origine, on te ramène souvent à tes origines, mais par exemple, ça sous-entend que t'es pas français.
Voilà, c'est ça. Et
moi, je suis née en France.
Dit... Oui, voilà, moi aussi, je suis née en France. Et surtout qu'en fait, on nous dit que t'es moitié-moitié, mais c'est bizarre aussi, enfin, nous on est un peu un mélange en fait, et on n'a pas envie de choisir notre camp,
tu vois. Que ce soit vraiment mélange, tu vois, parce qu'il y a ce côté, tu sais, genre, c'est horrible, t'es pas une personne entière, t'es un peu d'un truc et un peu d'un truc. C'est bon, je sais que c'est comme ça que ça marche l'ADN, que normalement t'es genre à 50% de d'apport génétique des deux côtés, mais en l'occurrence, c'est pas comme ça qu'on est, on n'est pas divisé en deux, en mode une partie française, une partie arabe, ça serait horrible, on est une personne à part entière, et c'est plus une forme d'addition, je trouve.
ça, exactement.
Genre, je suis français et métier arabe, donc du côté de ma mère. Et en l'occurrence, c'est pas du tout une moitié. Genre, je sais pas, il manque pas un truc, tu vois.
Bien sûr.
Mais un côté, tu vois, par exemple, en France, tu vois, il y a ce côté où je me sens plus obligée d'être français.
Ah bah, clairement.
J'ai beaucoup intégré de manières de parler, des manières d'être pour paraître plus français. Et il y a toujours ce truc où finalement, t'es pas reconnu à part entière.
Ouais, clairement.
Encore une fois, avec ce genre de remarques, c'est t'es de quelle origine ? Du coup, t'es pas totalement français. Et alors, t'es pas totalement français. Et alors, du côté des personnes racisées, t'es pas assez racisé.
Oui, moi, voilà, je sais que c'est trop bourgeois. C'est ça. T'as un prénom français et tout. C'est ça. Donc, ça passe pas, quoi.
Il y a un lac de culture, tu vois. C'est genre, ça. T'es pas entièrement quelque chose. Alors que, bah, non, en fait, c'est.
Quelle est ta place sur ce monde ?
C'est tout le problème du métissage. Et ils sont tous comme ça, en mode, c'est une richesse, mais personne ne parle vraiment, genre, de ce que c'est d'avoir le cul entre deux chaises.
Exactement. Le cul entre deux chaises, c'est exactement ce que je ressens en général, genre. Si je suis avec des personnes blanches ou des personnes racisées, genre.
Il y a toujours un truc qui va pas, en fait.
C'est ça.
C'est l'expérience en plus, peut-être aussi. Il y a peut-être du racisme quand t'es avec des personnes blanches.
Clairement.
Mais c'est mignon parce que, en vrai, je vois beaucoup de gens qui essayent, en règle générale, de comprendre. Alors, pas forcément de la meilleure manière.
Du coup, par rapport aux expériences racistes, moi, j'aimerais bien revenir sur la fétichisation. Alors, en fait, une fois, il faut savoir qu'un mec m'avait dit, genre, j'étais très timide au collège. Ça peut paraître bizarre parce que maintenant, je parle tout le temps, les gens en ont marre. Mais, genre, au collège, j'étais très timide. Et du coup, un jour, un gars m'a dit, non, mais attends, mais Louise, c'est trop bizarre. Sois timide, pour tu plais au mec, attends, t'as la peau mate. Et donc, voilà. Et voilà, d'autant dire que derrière, j'étais très mal à l'aise. Et en fait, c'est juste que j'ai l'impression que, du coup, comme t'as la peau mate et que du coup, tu es différente, on va te préférer, du coup, parce que bah forcément, bah ça change, quoi. Alors, t'es pas comme les autres et tout. Mais du coup, en fait, c'est extrêmement, fétichisant et déshumanisant parce que bah on est aussi une personnalité, on a des choses à dire, on n'est pas juste une peau mate en fait.
Ouais, alors c'est juste sachez quelque chose, ce n'est pas du tout un compliment de dire à quelqu'un à quelqu'un ouais je t'aime bien parce que t'as la peau mate et tout ça et tout non c'est raciste d'avoir des préférences par rapport à la couleur de peau. Moi je sais que c'est quelque chose qui me cringe un maximum, genre quand on dit moi je date exclusivement des personnes arabes métisses et alors que si c'était l'inverse par exemple et que je disais moi je date que des personnes blanches, ça sonnerait raciste.
Oui,
tu
vois, bien sûr.
Alors que on peut avoir des préférences peut-être par rapport à la personnalité et tout ça, à la limite une coupe de cheveux, tu vois, mais pas quelque chose qui se décide pas comme la couleur de peau, surtout que c'est généralement des biais racistes.
Ah bah clairement, oui.
C'est vraiment issu de tout ce qui va être les clichés,
les représentations qu'on a en fait des personnes maghrébines, des personnes qui ont la peau mate, qui sont souvent très sexy, ou alors qui sont souvent très timides, mais tu vois, genre elles peuvent se lâcher et tout dès qu'elles sont avec un homme et tout.
Ça,
genre,
c'est totalement base... issu du porno notamment. Tu
oui,
vois.
Oui, mais la base.
Toutes ces représentations qui sont erronées et qui sont donc qui font partie de ce système raciste qu'on entretient. Voilà, c'est pas
c'est
un
vrai
compliment.
C'est vrai que pour nous classer dans des barres de recherche, il y a du monde. Hein,
oui, non, c'est clair.
Clairement, mais du coup, voilà, ça part de tout ça, et du coup nous sachant ça et quand on entend ces remarques là, bah en fait on est vraiment très mal à l'aise, on a l'impression d'être une bête de foire, on a l'impression qu'on... Même après, quand on est vraiment des anxieuses comme nous, on va commencer à se prendre la tête et tout, à vraiment être mal à l'aise quand on va nous draguer et tout, machin.
Parce je sais que je suis rentrée déjà quasiment dans des rôles, tu sais, du style je vais faire le thé à la menthe pour une de mes ex à l'époque et tout, genre pour la famille de mon ex, genre tout ça, je voulais me faire bien voir et tout ça. La bonne arabe, tu vois.
Ouais,
du coup, je rentrais dans le cliché en faisant du thé à la menthe et tout ça et tout. Et du coup, j'ai entretenu, entre autres, ce cliché-là et tout.
Parce qu'on t'a forcé aussi à l'entretenir, quoi.
Oui, genre, voilà, c'est
pour bien
ça,
passer et tout. Parce que voilà, les clichés de des voleurs, voleuses, machin.
Ah oui, ça aussi, on en a droit, c'est pas mal.
Enfin, voilà, quoi, on en a marre en fait. Parce que on a l'impression direct d'être différent et tout, d'être placé comme ça sous un projecteur. Et on n'a pas envie de ça, surtout qu'encore une fois, on l'a dit. En fait, nous, on est nés en France et on a un peu un mélange des deux. Et on n'a pas envie en fait de forcément exposer nos origines comme ça parce que ça fait partie de nous, c'est perso. Et le fait d'avoir des clichés derrière, on se sent vraiment mal à l'aise parce que
ça fait
c'est un peu brutal, quoi. Ouais, genre,
c'est un peu plus compliqué d'assumer en fait.
Ouais,
Puis avec
exactement.
Toute cette représentation un peu négative aussi qu'on a en tant que maghrébin, surtout aujourd'hui.
Exactement.
Mais du coup, dans le féminisme, j'avoue que au sein même du féminisme, ces luttes-là, elles sont pas terminées. À mon sens, voilà, on vous spoil nos points de vue. Mais est-ce que le féministe, à ton avis, toi, est à la hauteur aujourd'hui Tu penses beaucoup au collectif à l'heure actuelle,
justement, honnêtement, c'est compliqué parce qu'on voit pas en fait en tête d'affiche des personnes racisées, quoi. Ouais. En fait, ça fait mieux de voir des femmes blanches en général, et les personnes du coup qui sont gender fluides, qui sont personnes trans encore moins. Mais du coup, là, si on reste sur le racisme, c'est quand même pas la majorité qui est représentée, qui est mise en avant, quoi. Et donc voilà, genre, c'est très bien qu'on parle de féminisme, que vraiment ça devient de plus en plus présent dans les médias, tout ça. Mais après, la vraie révolution, c'est quand on verra une féministe maghrébine, une féministe qui est voilée, une féministe noire, et qui du coup qui est mise en avant vraiment, qui chante et tout, qui fait des millions de vues. Je ne sais pas encore.
Ouais, mais... j'aime bien le monde que tu dépeins.
Voilà,
j'ai envie d'y croire. J'ai envie de.
Un monde parfait.
Mais ouais, un féministe un peu plus intersectionnel. Je sais que moi, je suis particulièrement déçue, surtout des collectifs féministes qui du coup ne représentent pas toutes les femmes, parce que. En vérité, on est d'accord, y a, le féminisme, c'est ok, mais pas forcément pour tout le monde encore aujourd'hui. Ça dépend sous quel étendard tu te places. Si t'es une féministe woke, ou si t'es une féministe de la vieille. Ça dépend. J'ai l'impression qu'il y a quand même un fossé générationnel, et en même temps, c'est des prises de position qui sont en vérité très politiques. Juste pour parler, les collectifs féministes aujourd'hui, ils essayent un maximum de défendre tout le monde, hein. Je veux pas jeter la pierre, mais il y a aujourd'hui beaucoup de collectifs qui sont un peu limite, ne serait-ce que par rapport à l'immigration, même par rapport à l'islamophobie, voilà. Parce que tu sais, tu disais, j'aimerais bien voir une féministe voilée, tu vois. Ça paraît inconcevable pour certaines personnes, parce que genre le voile, ça serait la soumission et tout ça.
C'est ça.
Et alors que en fait, ça reste des femmes au final. Et aujourd'hui, du coup, il y a une émergence, je trouve, des féministes identitaires. Et alors, du coup, ça rejoint la politique, hein, parce que donc c'est des féministes d'extrême droite pour la plupart, qui du coup défendent les femmes et qui du coup sont contre l'immigration, qui sont contre les femmes musulmanes ou qui sont voilées et tout ça, et qui finalement choisissent à la place de ces autres femmes. Et ça, c'est dommage, parce que en fait, même les groupes qui sont moins positionnés, j'ai l'impression qu'il y a ce positionnement-là où soit on te met en avant, tu vois. Soit en fait on essaie de t'intégrer et à ce moment-là on voit pas les couleurs.
Parce que, avant tout,
ce qu'il faut c'est défendre les femmes.
Ouais.
Donc tes intérêts on les verra plus tard. Mais encore une fois, ce que je te disais c'est que quand t'es une femme et arabe, tu subis des discriminations que seule une femme arabe peut subir, tu vois. Pas forcément une femme blanche, pas forcément un homme arabe en l'occurrence.
Mais en soi, en fait, en tant que femme, on vit les mêmes choses et on devrait toutes se soutenir. Et c'est ça aussi l'intersectionnalité, quoi. C'est que, en fait, c'est horrible à dire, une femme blanche et une personne racisée vont toutes les deux, pas forcément de la même manière, se faire harceler dans la rue. Vont toutes les deux aussi avoir, quand du coup tu es une femme, du coup avec un corps de femme, assimilé à femme en tout cas dans la société, quand tu es une femme avec un vagin, tu vas aussi avoir tes règles, que tu sois racisée ou pas. Et en fait, on a plein de champs où entre femmes, entre personnes sexisées, on se rapproche. Et en fait, c'est trop dommage comme ça de exclure, parce que selon la représentation générale, la femme voilée, elle est soumise à l'homme, elle est soumise au père et tout, mais non. Et le voile aussi, ça peut aussi être pour des raisons genre de mode. C'est aussi pour
personnel, tout simplement.
C'est
devenu un peu l'emblème à abattre, avec toute la politique autour. C'est pour décrédibiliser aussi l'islam. En tout cas, c'est comme ça que je ressens, et c'est comme ça que c'est fait, en fait, tout simplement. C'est dire regardez comment ils sont machistes, regardez ce qu'ils font à leurs femmes et tout ça. Je vous rassure, et je voudrais peut-être vous apprendre quelque chose, mais le machisme n'est pas exclusif à l'islam. Il existe dans beaucoup d'autres religions, mais il existe aussi en dehors des religions, pour les personnes qui ont le contre-exemple de dire « de toute façon, c'est ça le féminisme, il faut sortir de la religion pour... » Mais la religion, c'est quelque chose de très personnel. Hein. C'est la foi, au final. Tu l'as, tu l'as pas. C'est des pratiques, tu les fais pas. Prendre un seul exemple de l'islam, c'est un peu compliqué pour essayer de... collectionner le bon musulman, le voici et tout ça, il fait ceci, il fait cela, cela, mais c'est nier l'existence de plein de personnes, c'est nier l'existence de plein de femmes, en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Et juste pour revenir après sur l'exemple de « on ne voit pas les couleurs », en général, beaucoup de blancs disent « ah, mais les personnes de couleur, ah, mais pourquoi les personnes de couleur ?» En fait, Enfin, n'hésitez pas à dire arabe, noir, enfin franchement, arrêtez cette espèce d'hypocrisie à deux balles.
C'est vrai genre... que j'ai pu prononcer personne de couleur, non, tout à l'heure, en plus, c'est vrai que c'est... Bah, oui. Faut le dire, quoi, on peut dire noir, on peut dire arabe et tout
bien
ça.
Bien sûr,
c'est...
parce qu'en fait, couleur, c'est encore plus déshumanisant, genre on n'est pas de couleur magenta,
c'est couleur réel, fuchsia, c'est vrai.
C'est ça, genre, et en fait, vraiment, ça n'a aucun sens, et en fait, limite, je trouve ça... C'est comme de dire black, quoi.
Ouais.
Dites noir, en fait, enfin...
C'est marrant, parce que je me déconstruis en plein podcast, ouais, je suis en train de remettre en question, est-ce que j'ai déjà dit, est-ce que je l'ai dit pendant le podcast, vous pourrez vérifier plus tard.
Après, encore une fois, genre, voilà, on n'est pas concerné aussi, on n'est pas noir, en fait, mais souvent, on nous a dit, ah, du coup, t'es de couleur, ah, du coup, voilà, non, mais t'inquiète pas, les personnes de couleur, moi, je les aime bien, enfin, mes frères...
Horrible, genre, voilà, d'accord.
Genre, non, en fait, enfin, genre, tu peux dire, oui, ok, je suis d'origine maghrébine, ok, je suis arabe, ok, j'ai la pommade, enfin, voilà, so what. Genre, arrête de passer par quatre chemins, genre, en fait, et ça, je trouve que c'est un peu gênant aussi.
C'est ce côté l'humanisme, au final. On est tous sur le même pied d'égalité. Ok, certes, j'aimerais bien, mais alors, à ce moment-là, qu'on soit pas discriminé, parce qu'on vit plein de choses. Bah, tu parlais de l'espace public tout à l'heure, mais l'espace public, c'est pas du tout la même chose quand t'es une femme et quand t'es une femme voilée, par exemple.
Exactement.
Je l'ai vécu, là, je porte le voile pendant le mois de Ramadan, donc je couvre mes cheveux. Je le porte pas forcément de manière très traditionnelle, parce que j'ai un petit look un peu décalé, mais... ouais, c'est spécial, hein, intégrer l'espace public quand t'es une...
T'as des exemples de harcèlement dans l'espace public avec...
Oui, j'en ai. Alors, quand j'étais en banlieue parisienne, mais c'est une banlieue bourge que je ne citerai pas, c'est Sèvres, j'étais en banlieue parisienne à Sèvres, et il pleuvait des cordes.
Ça dénonce.
Et j'avais une écharpe que j'ai mise sur la tête, alors comme je suis typée, et qu'il pleuvait. Et je te jure, il y a une dame, j'étais à côté d'elle, et vraiment, elle a écarté son sac à main et sa gamine pour de moi et tout, en disant, Sophie, attention, en chuchotant. Mais genre, attention, femme voilée. Elle a pratiqué la distanciation sociale avec moi, au cas où, genre, je sais pas, je voyais son sac, aucun sens, tu sais.
Les gestes barrières, islamophobes.
J'étais trempée et tout, mais genre... horrible, tu vois, mais genre... Et pourtant, j'étais même pas voilée à l'époque, tu vois, c'était juste... toi aussi, on t'a déjà confondu pour quelqu'un de musulman.
Bah, bien sûr.
Musulmane, mais c'est...
Bah, j'ai une anecdote, en fait, quand j'étais au centre aérien avec ma sœur, genre, voilà, les centres aériens ne sont pas de très bons souvenirs aussi, clairement. Et en gros, je me rappelle qu'on nous servait pas de porc, et genre, on comprenait pas pourquoi, on a parlé à ma mère, et genre, ma mère est venue, du coup, voir les animateurs, et ils ont dit, ah, mais du coup, on savait pas trop, et tout, machin. Mais genre, ils nous ont même pas posé la question, donc ok, on était toutes hyper jeunes, on était pas du tout au point sur cette question-là, mais genre... Le fait qu'ils aient fait un lien direct, parce qu'on a la pommade avec le fait qu'on mange pas de porc, c'est quand même un peu représentatif de notre système très peu réfléchi, en fait. Enfin,
mais,
je sais pas.
Mais pareil, tu vois, il y a ce côté, tu vois, à l'école primaire, j'ai vécu à peu près la même chose, sauf que moi j'étais le bon arabe. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'étais l'arabe qui est pas trop arabe. Qui parle bien français et tout ça, qui crie pas trop et tout ça.
Toi, ce côté de l'intégration française, toi, ça
ouais, c'est ça, tu vois. Métisse, dommage qu'elle soit un petit peu arabe, mais c'est pas grave, c'est une bonne arabe et tout ça. Et à ce moment-là, genre, c'est vraiment ces mêmes gens qui disent on voit pas les couleurs, tu vois, et tout ça. Et qui comprennent pas ce que c'est de subir ça au quotidien, l'espace public, discrimination au travail. Moi, j'ai eu peur pour prendre cet appartement dans lequel on enregistre. J'ai eu peur qu'on nous le refuse parce que je suis un peu typée, quoi. Et vraiment, c'est ce genre de choses. Et encore, j'ai choisi un prénom qui est très français, mais pareil, quand j'ai eu le choix de... Quand il fallait que je trouve un prénom auquel m'identifier, tu vois, et en l'occurrence, mon dead name était un peu entre les deux, tu vois, il fait plus espagnol. Et du coup, quand il a fallu choisir, j'ai pris un prénom français, mais c'était trop dur et difficile pour moi, mais en même temps, c'était plus simple, tu vois.
Oui, non, mais c'est ça. C'est encore une fois cette limite. Enfin, c'est comme aussi au travail, je me rappelle, je sais pas, on me demandait, ah, du coup, tu vas faire quoi et tout après ton diplôme, machin. Je dis, ah, bah, je sais pas, peut-être partir à La Réunion, machin et tout, genre voyager. Ah oui, du coup, parce que t'es là-bas, c'est ça. Ah oui, ok, du coup, tu passerais bien et tout là-bas, toi, t'as la pommade.
Et en fait,
c'est ça, genre vraiment, voilà, genre j'arriverai et tout à bien m'adapter et tout aux coutumes, marchand, voilà.
Oh,
voilà, exactement. Et en fait, genre, il faut savoir que c'est un double standard en fait, ça. C'est qu'en fait, si j'étais blanche, on m'aurait pas dit ça, on m'aurait pas dit, ah oui, ok, t'es de là-bas, ah oui, ok, enfin, mais comme du coup, je suis perçue comme racisée parce que j'ai la peau mate, bah forcément, on va direct faire un pont encore une fois.
Ça, c'est parce que t'as un métis mystère.
Voilà.
Ah, M&M's.
C'est nous, c'est les M&M's.
C'est Masqué qui a introduit ça. et maintenant tout le monde le dit, ça me fait trop rire. Ma sœur, elle dit Métis Mystère et tout, c'est beau. Hein. Enfin, tu sais, il y a cette idée aussi que les vieux ils ont. C'est genre, au bout d'un moment, il y aura tellement de métissage qu'on verra plus les couleurs et tout ça et tout, qu'il y aura plus de questions des origines. Mais bon, on parle pas non plus de ce que c'est être métisse. On disait tout à l'heure entre les
chaises. On va pas en parler, voilà. Et, on va pas creuser cette question-là.
Genre, ouais. Quand tu dis double standard et qu'on dit, genre, toi, quand tu veux renouer avec tes cultures, c'est renouer avec ta culture.
Ouais.
C'est te trahir. C'est un peu trahir, c'est un peu trahir un camp, tu vois.
De ouf.
Et c'est genre rentrer dans votre pays. Mais moi, je suis née en France. Je suis dans mon pays, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est encouragé. C'est un peu de la discrimination positive, tu vois. En mode, c'est bien, tu renoues avec tes cultures, tes origines,
mais
tout
oui,
ça.
Mais c'est ça. Mais...
en même temps, quand c'est un blanc qui va au Maghreb, par exemple, bah, il est en vacances, tu vois. Quand c'est un maghrébin qui va en France, ah là, on voit ton travail, par contre. Et ça, c'est marrant parce que c'est ce double standard-là, on se retrouve énormément dans les médias en ce moment et je pense qu'il faudra qu'on en parle un peu.
Écoutez,
on va peut-être passer à ça.
On a décidé de s'engager. Donc, nous allons parler de l'actualité parce que si je suis assez douée en montage, vous écoutez ce podcast la veille des présidentielles. Enfin, du premier tour des présidentielles.
Alors, on espère pour vous que tout va bien. D'accord.
Voilà, exactement. Peut-être que vous avez beaucoup d'angoisse en ce moment avec le contexte et tout. Écoutez, dites-vous que c'est légitime. Et donc.
On vient un moment assez historique, je trouve.
Oui, c'est, clairement.
Là, concrètement, comment ça fait, vous, de vivre trois événements assez historiques Je veux dire, on a une guerre en Europe,
c'est
on
ça.
Vit le Covid. Ah, je suis désolée, j'ai pas envie d'angoisser nos auditeurs.
Ouais, non, peut-être pas.
Mais c'est assez exceptionnel. Et franchement, si vous êtes en stress, eh ben, on est avec vous, on comprend.
Parce que clairement, en ce moment, le contexte est compliqué. Mais du coup, on voudrait quand même rappeler qu'actuellement en France, si on suit les sondages, nous avons quand même une personne qui arrive en premier, pour ne pas le citer, le grand Macron. Qui...
Tu l'as cité du coup.
Voilà, puis, genre clairement, avec sa politique de merde, il y a quand même un mec comme Darmachien. Genre...
Puis il y a la montée de Gargamel aussi, là.
Voilà,
vous savez, le Z, là.
Et oui, on t'aime pas trop ici. Clairement, en fait, il faut juste avoir conscience. En fait, en général, les personnes veulent tous voter Macron, parce que moi, j'aimerais vraiment partir sur Macron, parce qu'il passe bien et tout. Mais c'est quand même un mec qui veut revoir le droit à l'asile, qui veut un peu le réformer. Et donc, le droit à l'asile, quand des personnes étrangères arrivent en France, le droit à l'asile, c'est donc le permettre de rester sur le sol français et donc d'avoir accès à des études, à un travail, donc il y a des certaines réglementations et du coup ils ont le statut de réfugié.
La santé aussi.
Exactement, voilà, c'est ça. Et du coup, pour avoir ce droit, bah, c'est quand même déjà très compliqué, ça met en général plusieurs années, plusieurs mois.
Déjà, bon, la nationalité française, ça met un temps fou.
Mais bon, quand même. Mais du coup, Macron, il est là, oui, on va un peu le réformer, hein, parce que franchement, ça suffit, là.
Surtout les attaques au droit du sol, aussi, voilà, c'est de l'extrême droite, donc le Z, puis la sorcière, là. On va pas la citer. Elle me faisait peur à l'école primaire. Enfin, moi, premier degré, c'était notre méchante de Disney, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et elle me fait toujours aussi peur. Franchement, son sourire, là, ouh. Mais tout ça pour dire que...
C'est ses cheveux qui
poussent. Ouais. Il va le revoir en... Le droit du sol, donc fondamental. Du coup, un enfant qui naît sur le sol français serait pas automatiquement français.
C'est ça.
C'est tellement raciste. Ça, c'est.
C'est
parce
ça.
Est-ce que tu imagines, genre, un couple blanc, genre, leur enfant, né en France, tu vois, n'est pas automatiquement français?
Bah,
enfin, c'est impensable, même l'extrême droite ne pense pas comme ça. C'est vraiment une mesure qui est dirigée pour les personnes étrangères, en l'occurrence, et.
C'est ça.
Pour pas que tout le monde ait la nationalité française, pour grave. Cet
homogénéisme. Pour la France profonde.
Qu'est-ce que c'est que la France au final?
Voilà, exactement.
Non, mais ils remettent en question la colonisation aussi, et puis les extrêmes.
Ouais, c'est-à-dire.
Bah, ils sont en mode, c'est un bienfait, ils essaient de passer ça. Macron avait quand même dit que c'était un crime.
Mm.
Bon, ça faisait des années qu'il y avait pression des associations. Et puis... Mais la politique des extrêmes, en fait, elle va diaboliser. L'immigration, en fait, simplement.
Oui.
C'est vraiment sa porte d'entrée aujourd'hui. C'est au niveau du chômage, au niveau de la crise, c'est essayer un maximum de faire peur aux gens. Hein. Il y a c'est les gens qui pensent qu'ils vont se faire grand remplacer. Alors ça, déjà, c'est une théorie qui est fausse, mais archi fausse, genre elle ne tient pas, d'accord. Et si on écoute juste les spécialistes, mm-hmm. d'accord, les sociologues, les donc même dans l'espace public, tu vois, les urbanistes, voilà, mm-hmm. la répartition, c'est impossible, ce grand emplacement n'existe pas, c'est une théorie du bullshit, d'accord. Et en fait, la fenêtre médiatique maintenant, c'est tellement passé à la télé. Parce que ça fait l'audience, hein, mine de rien. Ça passe tellement à la télé qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient acceptable.
Mais c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est que comment est-ce qu'on peut accepter, genre que oui, il y a des personnes qui nous volent notre travail. Parce que du coup, c'est des personnes qui ont immigré en France. Enfin, tu vois, genre, je comprends pas.
Mais en fait, c'est parce qu'on présente que les mauvais côtés de l'immigration. Et ça, c'est dès la fin des années 80, en fait.
Mais je pense aussi parce qu'on n'est pas des blancs.
Oui, bien sûr. Alors que c'est purement raciste, mais oui. En fait, c'est dès la fin des années 80. Enfin, quand c'est la fin, tu sais, des belles années où tout le monde a du travail et tout ça et tout, sorti de la guerre et tout ça, d'un coup, il y a une crise économique. Et puis, en fait, on se retrouve avec trop d'enfants aussi. Puis pas assez de travail, et y a une vague d'immigration c'était depuis déjà super longtemps, qui était déjà là. Puis t'as la création du FN, et le Front National, du coup.
C'est le Rassemblement National.
Oui, mais du coup, à l'époque, c'était le
FN.
ça n'a pas changé la politique, de toute manière.
Ouais, c'est ça.
Le père et la fille sont sur la même ligne, et en l'occurrence, eux, ils disent, regardez, il y a tant de personnes migrants, enfin, d'étrangers, d'immigrés, sur le sol français. Mais il y a aussi tant de chômeurs. Donc ça veut dire que... Et ils font l'équation la plus débile du monde. Enfin, ils disent, du coup, s'il n'y a plus de migrants, il y a encore du travail. Mais ça marche pas comme ça. C'est en l'occurrence, on sait aujourd'hui le problème de l'immigration
et du chômage. Ne vient pas en fait de l'immigration, des représentations qu'on a, des études, en fait, du système scolaire, travail, des précarisations du travail, de la politique salariale aussi, de la politique aussi des salaires, enfin, il y a plein de choses comme ça, enfin, il y a plein de choses qui font que le chômage existe, quoi.
Mais la privatisation aussi, bref, il y a un maximum, et aujourd'hui, en fait, ils axent tellement leurs propos sur la négativité de l'immigration, qu'on oublie les points positifs.
La base, de toute façon, des politiques d'extrême droite, c'est qu'ils sont pas renseignés, quoi.
Et de base, mais c'est de la fake news un peu bien ficelée, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est du sensationnel aussi, au point qu'au bout d'un moment, ça devient normal. Et ce genre de propos sont racistes et discriminatoires et xénophobes. Et en l'occurrence, quand eux, ils disent ça, en fait, ils occultent une partie de question. Là, on est en pleine présidentielle, il y a la question de la retraite. L'immigration, c'est quand même des gens sur le sol français qui cotisent. Donc il y a une partie de leur salaire qui va partir pour les institutions publiques, pour les travaux et pour la retraite de toutes les personnes qui votent actuellement pour le FN. Et en ce moment, on est encore en train de se dire, est-ce qu'on négocie le départ de la retraite plus tard ? Tu vois ? Alors que c'est les premiers à mourir tôt, parce qu'ils ont des travaux précaires. Et en plus de ça, c'est des gens qui cotisent toute leur vie et qui auront une retraite beaucoup plus tard. Et alors, s'il y a plus d'immigrés, y a aussi plus de gens qui cotisent. Donc il y a plus d'argent public. Donc il y a plus de gens, plus d'argent pour les gens qui vont à la retraite. Mais ça, on n'en parlera jamais.
Conclusion, ne votez pas Le Pen, ne votez pas Zemmour, ne votez pas Macron, votez Mélenchon. Voilà. Juste comme ça.
J'avoue que là, la discussion de ce soir est très insoumise.
Voilà, c'est ça. Clairement, juste, on ne peut pas du tout vous tenter quelque part.
En fait, c'est un peu le problème de la droite aussi. Tu vois, il y a la droite en règle générale, il y a cette bulle de confort qu'ils ont. Et il n'y a pas de souci. C'est normal, on se déconstruit comme on peut, tu vois. C'est les cadres aussi qui font ça. Et les personnes racisées, en l'occurrence, nous, tu vois.
Ouais.
On est sorti très tôt de notre bulle de confort, bulle de sécurité.
On a été confrontés en fait à d'autres choses, quoi.
Exactement.
Enfin, clairement, quand on est quelqu'un qui du coup est blanc, qui est un homme et tout, ben forcément, et du coup, on se rend pas compte. Et par exemple, oui, du coup, on va plus être enclin à voter comme Macron ou comme Marine Le Pen.
Pour nous, c'est quand même une question vitale.
La bulle, c'est totalement vitale.
Elle a sauté depuis très longtemps, en fait.
Oui.
Et on les voit, les discriminations, on les subit tous les jours. Mais en même temps, on essaie de nous canaliser, tu vois. On nous met quelques trucs un peu genre comme des concepts du style on va nous dire c'est pas tout le monde qui est méchant, c'est pas la société qui est raciste,
alors que on sait que le racisme,
voilà, c'est ça. J'aime bien le chacun son opinion, c'est pour tolérer la tolérance, le concept de tolérance, c'est à dire qu'en gros on est censé tolérer tout, alors qu'au final il y a des idées qui tuent et puis il y a des idées qui prônent l'égalité, tu vois. Il y a des...
Alors, c'est vrai que la liberté d'expression, en fait, à un moment donné, voilà, elle est là, quoi, en France. Donc, franchement, ouais. Voilà.
T'as le droit de dire des propos racistes à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Parce que chacun son opinion. Mais non, parce qu'il y a les propos racistes qui tuent, qui blessent. Et puis, il y a les gens qui veulent juste avoir l'égalité et qui veulent avoir des droits par égo et qui parlent, en
fait. Bien sûr.
Et c'est marrant parce qu'on entend plus une certaine voix que l'autre, oui. Bizarrement. Et pareil, il y a la méritocratie aussi. Mm-hmm. C'est ce côté du... c'est pas tout... quand je disais l'accès aux droits... les droits égaux. Quand tu veux, par exemple, un appartement, un travail, tu vois, ou quand tu viens d'une classe populaire, parce qu'on parle pas assez, genre même la banlieue, en règle générale, on va te dire, tu peux sortir de la banlieue si tu es assez fort. Mais genre, du coup, il y a ce côté de, si tu fais assez d'efforts, tu peux. Alors que quand t'es né en plein épicentre d'une ville, tout ça, dans un cadre familial propre ou propice et tout ça, enfin, la méritocratie n'existe pas, en réalité, tu vois. Il y a des gens qui commencent beaucoup plus avantagés dans la vie, il y a des gens qui galèrent. Et il y a des gens, et en fait en plus avec ces arguments là plus le c'est pas toute la société qui est comme ça, c'est juste lui qui est bête, et ben en fait avec tous ces arguments là t'es censé faire avec en tant que personne racisée toute ta vie, puis jusqu'à ce que tu te rendes compte que la politique te crache à la tête, et que t'as quand même des arguments qui passent comme ça et des gens qui vont voter pour ces gens.
Bah clairement, c'est ça. Et surtout que encore une fois, enfin, la liberté d'expression, je reviens là-dessus, n'a aucun sens si elle oppresse d'autres personnes.
Exactement.
Et du coup, en fait, vous pouvez pas dire des trucs racistes, vous pouvez pas dire à une personne racisée, ouais, je vais voter Le Pen, ouais, je vais voter Macron, ouais, je vais voter Zemmour. Bah non, en fait, enfin, genre.
Puis, ils
ou alors vous
n'êtes
pas renseigné sur le programme, en fait. Enfin, je sais pas, regardez un peu comment c'est full de la merde.
C'est vital, en fait. Pour
voilà,
nous,
exactement.
Au bout d'un moment, là où en fait, ça a l'air d'être le moins pire pour certaines personnes.
Ouais.
Et en fait, oublier à quel point ça peut être vital pour certaines personnes. C'est,
exactement.
C'est genre déshumaniser toute une partie de la population. On comprend cette notion de bulle, de confort, tout
oui.
Ça. Si c'était pas. Si, en fait, c'était le cas. Si finalement, voter de droite, c'était pas la même chose à faire, ça voudrait dire que ce serait peut-être eux les méchants.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait peut-être eux les... Peut-être qu'en fait, il faudrait se déconstruire tout ça et tout ce qui a été appris. Ça peut être énorme aux yeux des gens, mais alors pour nous, c'est une question de vie ou... De vie, en fait, tout simplement.
Oui, tout simplement.
Je préfère pas dire le reste.
Alors, est-ce que du coup, tu voudrais nous parler un peu de ta religion, de l'islamophobie que tu subis ?
Bah, en ce moment, on est en pleine période de Ramadan. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui le font, Ramadan Mubarak. et voilà. Et puis pour les autres, très bon mois d'avril. C'est donc une période un peu spéciale pour moi parce que c'est la première fois que je fais le Ramadan seul.
Okay.
D'habitude, je suis toujours dans mon cadre familial. Là, je suis déménagée à Rennes et du coup, je suis sur Rennes des Terres et je suis aussi très seule du coup à vivre ma foi. Et écoute, ma religion, c'est pas facile de vivre ça seule maintenant. Et c'est là que je me rends compte du côté communautariste qui me manque un peu et en même temps,
j'imagine,
et en même temps qui est tellement mal vu. Voilà. Mais je retrouve des petits actes de solidarité auprès d'autres femmes musulmanes et c'est cool. Et c'est une bonne chose. J'ai l'impression, c'est très bizarre, que j'ai beaucoup plus de regards en ce moment. C'est aussi parce que je porte le voile, du coup, j'avais pas te le dire. Enfin, je me cache les cheveux en partie pendant ce mois, quand je jeûne. Je pense que c'est aussi un acte politique. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins pour un mois, je porte le voile. Alors le voile, qu'est-ce qu'on en parle ?
Alors,
c'est
très politique aussi tout ça.
Oui, bah oui. Bah tout à l'heure, je te parlais des films féministes identitaires.
Oui.
Ça y est, j'ai vu, j'ai pu voir toute la merde étalée sur Instagram et puis les réseaux et tout ça. Twitter, c'est atroce. Donc par rapport au voile et tout ça, et je comprends en fait. Enfin, je comprends l'idée parce que je suis passée par là aussi. En fait, ça a l'air d'être inconcevable, tu vois, de parler d'islam et de féminisme. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Je crois que j'en suis un peu la preuve.
Oui, bien sûr.
Et c'est comme ça paraît inconcevable d'être musulman et être homosexuel ou trans, tu vois. C'est parce qu'en fait, on a une idée. De ces religions, comme si c'était machiste, comme si c'était homophobe et raciste, enfin tout ce que tu veux, tu vois, tous ces clichés qu'on colle. Je pense que c'est beaucoup aussi lié aux médias.
Ah bah clairement, et la représentation des personnes musulmanes, oui, c'est sûr.
Moi je vais pas vous parler de l'islam en règle générale, je vais pas vous parler
alors
du
là,
Coran
on a pas fini.
Et j'oserais pas, et puis ouais, on aurait pas fini, et puis de deux, j'ai encore ce problème de légitimité, genre j'ai l'impression que je pourrais pas forcément bien en parler, tu vois, c'est tellement la théologie, c'est énorme.
Alors, genre, si on parle du Coran, là, on a fini à la fin du Ramadan, en fait. On a fini le premier.
Je suis contente parce que en fait, là, je suis beaucoup plus d'influenceuses qui sont musulmanes et qui sont revendiquées féministes. Et j'avoue que c'est ce que c'est même elles qui le disent. À la base, c'est un truc très européen, le féminisme, tu vois.
D'accord.
C'est quand même quelque chose qui correspond pas à tout le monde, par exemple. Donc, il faut un peu se méfier. Parce que c'est un truc de blanc. Tu vois, genre aussi, je sais que pour mes tantes, pour mes, toute ma famille au Maroc et tout ça, bien sûr, elles sont féministes, tu vois, mais se revendiquer féministe, c'est un peu compliqué aussi parce que, par rapport à ce que ça sous-entend, en fait, tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
c'est,
je vois.
Parce que, encore une fois, est-ce que le féministe est un truc inclusif? Aujourd'hui, je ne pense pas.
Parce que du coup, c'est intéressant de soulever ça, genre, en fait, le féministe intersectionnel, c'est aussi de comprendre que du coup, comme tu dis, tes tantes, du coup, qui sont au Maroc, qui n'osent pas dire qu'elles sont féministes, ça veut dire qu'elles vivent une autre forme de sexisme. Ouais. Ça veut dire que, bah, déjà, de base, de dire qu'on est féministe, ah là là, t'es une casseuse d'ambiance, féministe de merde. Déjà.
Pour autant, c'est pas que la société, elle est plus machiste. C'est pas une exclusivité à l'islam ou même aux religions, c'est ce que je disais. C'est un peu associé, je pense, au texte. Tu vois ce que je veux dire? Au Coran et tout ça, genre, c'est à l'idée que les gens s'en font. En gros, c'est pas la société marocaine qui est particulièrement... Enfin, elle l'est, mais la société française aussi l'est, mais machiste et tout. Elles vivent d'autres formes de discrimination en tant que femme et arabe et en tant que femme voilée et tout ça. Pas au sein de leur pays, forcément, parce que du coup, c'est plus un pays musulman. Mais, par exemple, quand elles viennent en France, elles le sont, tu vois.
D'accord.
Mais du coup, se revendiquer comme féministe, il y a une forme de méfiance, tu vois, parce que, encore une fois, c'est à cause de la colonisation et même, tu vois, genre de ces idées qui viennent d'Europe, tu vois, et ça, je reprends ça, et ces idées qui viennent d'Europe là, elles sont un peu mal vues parce que, enfin, bah, c'est un truc de blanc,
quoi.
Oui, c'est un truc de blanc,
français,
en fait.
De riche, quoi, de bourgeois, ouais,
Autant, c'est des gens qui sont purement féministes dans leur manière d'être et tout ça, et dans leur... c'est plus se revendiquer féministe qui est compliqué, parce que le féminisme, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pas un truc de blanc, au final? Et on en revient à la question du départ, mais du coup, c'est pas du tout impossible d'être incohérent, d'être féministe et musulmane, et du parce coup, que c'est une question d'interprétation, en fait.
Ok.
Il y a le texte. Et le texte, on sait aujourd'hui qu'il prône des valeurs égalitaires. Et en fait, les interprétations vont donner lieu à... Et il y en a beaucoup, crois-moi, il y a des milliers de lectures du Coran différentes. Et il y en a aujourd'hui, il y a des lectures féministes du Coran. C'est une question de lecture. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu savais qu'il y avait une sourate entière qui était consacrée à une femme dans le Coran?
Non.
Est-ce que tu sais qui est cette femme?
Vas-y, dis-moi.
C'est Marie.
Ok.
C'est la Vierge. Okay. Genre, la Vierge Marie. Et dans cette sourate entière... Bah, en fait, c'est carrément une lettre d'amour à la femme, en fait. Et il y a même beaucoup de dictons, alors je sais pas s'ils sont particulièrement musulmans, mais je sais qu'ils sont, en tout cas, ils sont arabes, qui dit que le paradis est sous les pieds des femmes.
Oh.
Tu vois? Et du coup, dans l'interprétation, bien entendu, on peut trouver des biais machistes et sexistes, mais ça, c'est aussi de l'ordre de l'historique, tu vois ce que je veux dire? Dans les interprétations qu'on peut faire, on peut en faire une interprétation par rapport à l'égalité des genres. On peut trouver des lectures, on peut trouver des sous-textes. Alors, c'est peut-être pas évident quand c'est comme c'est exploité aujourd'hui. Et c'est pas évident dans la manière dont c'est représenté aujourd'hui, surtout à cause des médias. Mais voilà, l'islam, c'est pas plus machiste que ce que n'est le catholicisme, ni que l'est une relation sans religion. Tu vois ce que je veux dire? Et par rapport à l'homosexualité et au genre, bah, c'est un peu la même chose. Tu vois ce que je veux dire? On peut trouver des lectures qui... parce que comme ça... un texte qui prône l'égalité, au final, pour égalitaire. Et pour autant, il y a toute une partie de ma famille, alors qu'il n'est pas au courant, pour mon homosexualité et pour ma transidentité, surtout ma transidentité, en fait. Mais c'est plus le choc, pas des cultures, mais le choc générationnel. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une partie de ma famille qui est quand même assez âgée. Il y a toute une partie en France qui ne sait pas non plus, et qui est... y a toujours ce choc générationnel, plus que le choc culturel, tu vois ce que je veux dire? Même si aujourd'hui au Maroc il y a des lois homophobes, c'est de l'ordre de l'État, et de l'État dont la religion, qui se sert de la religion, parce que c'est un État,
voilà. Je vois.
Le roi est aussi le chef de la religion au Maroc. On a des lois homophobes, il y a des couples homosexuels qui se font arrêter. Et la société est un peu moins ouverte qu'en France, mais. Auprès de ma famille, c'est pas du tout le cas, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est cette généralisation, en fait. C'est se dire, les femmes voilées, elles sont soumises. Tous ces clichés qu'on a...
Mais c'est ça, c'est la représentation, encore une fois.
Exactement. Alors que, purement, le voile, c'est un choix, tu vois, et c'est pas le but du féministe au final que mon corps, mon choix.
Exactement.
Le fait de se voiler, moi par exemple, est-ce que quelqu'un va me regarder droit dans les yeux et me dire oh oui mais tu es soumise, mais à qui? À qui? Genre ah oh, t'es soumise aux hommes, mais à quel homme? Mon
si
père est blanc.
Si tu nous écoutes Lou, sache que du coup Charlie est soumise à toi.
Exactement. Voilà. Non mais je suis soumise à personne, c'est un choix que j'ai fait, un choix aussi politique, et je me confronte maintenant à l'espace public, et au regard des autres, et je comprends un peu mieux, mais en même temps je revendique, et parce que cet espace est aussi à moi, la rue est à moi, d'accord, comme la rue est aux femmes, comme la rue est aux personnes trans, aux personnes homosexuelles, mais et voilà, ce droit je l'ai, et je pense qu'aujourd'hui le féminisme a encore beaucoup de travail à faire pour que justement ils prennent en compte tout ça, parce que quand tu sais le nombre de féministes qui se définissent comme abolo et identitaire et genre contre genre le voile, tu sais, ils veulent nous libérer, mais c'est oublier toute une partie des musulmans, même si il y a ce cliché de la femme islamique, tu vois, et tout, qui est soumise, qui est cachée, tout ça et tout. Il y a toute une partie de la population, c'est leur choix, ils vivent leur vie, c'est des gens, ils travaillent, ils se réveillent le matin, ils vivent leur vie, tu vois. Et il y a des gens qui veulent leur imposer une manière d'être, tout simplement pour se rassurer et se conforter dans leur biais raciste.
Est-ce que tu aurais des références de personnes, du coup tu disais que tu aurais des personnes voilées sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch
Écoute, alors voilà, ça fait trop d'informations en même temps. Non, en vrai, en règle générale, je regarde beaucoup de contenu féministe. Tout ce que je peux vous dire, c'est de faire attention à quel contenu féministe vous regardez, parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple Oser Féministe, c'est un contenu qui est islamophobe et enfin qui est relativement un peu identitaire, un peu abolo aussi, donc ça veut dire que c'est contre les travailleuses du sexe et les labos, et voilà. Et puis j'avais une référence, c'est Sarah Lou, qui a notamment fait une interview de Malika Hamidi, qui est littéralement une idole, et qui notamment a écrit un livre en mode féminisme, féministe et voilé, est-ce possible, je crois que c'est ça, je saurais plus donner le nom, le. Et sinon, pour toi, tes références, moi, c'est la première qui me vient en tête, mais...
Alors après, moi, j'ai une youtubeuse qui s'appelle Deirine Tia, du coup, qui est racisée et qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur l'antiracisme et sur le féminisme. Et vraiment, elle aborde plein de sujets, et notamment abordé ce sujet quand tu as un peu le cul entre deux chaises. Et du coup, parce qu'en soi, elle est métisse.
Ouais.
Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi la youtubeuse, donc elle fait vraiment plein de sujets. Elle parle aussi beaucoup de la représentation sexiste, en fait, des starlettes un peu, genre comme Ariana Grande, tout ça. Elle s'appelle Marianne GLC, G2LC, voilà. Sinon, il y a aussi le compte Insta Semblant de Rien, j'aime beaucoup.
Ouais, non, c'est pas raciste.
Ouais,
ça, c'est un très bon compte Insta aussi pour vous déconstruire.
De ouf.
Conseil.
C'est vachement bien, c'est sûr. Et après, il y a aussi le livre que j'adore vraiment,
celui qui nous a aussi inspiré le podcast.
Exactement.
On en parlait avant d'y penser. Beurette, un fantasme français de Sarah Difala et donc Salima Tenfish. J'espère que je prononce bien.
Oui, tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à lire ce livre, vraiment. Il est vraiment super bien. Il donne plein de sources. Il donne aussi des témoignages. Il m'a beaucoup aidé à casser ma représentation aussi que j'avais, parce que, petit rappel, on est tous racistes, hein, clairement.
Oui, on est tous bien intégrés.
Ah bah oui,
Déjà, moi, je me suis déconstruite en plein podcast
sur une expression que j'avais.
Puis voilà, hein, on n'échappe pas à ça. Toujours faire mieux. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à réfléchir, à vous documenter. Moi, j'ai d'autres bouquins aussi. Qu'est-ce que l'intersectionnalité, voilà, que j'ai commencé un peu, j'ai pas fini, donc je peux pas donner une review, mais c'est vachement bien. Et sinon, il y a Féminisme au Maghreb et au Moyen-Orient. Voilà, qui est vraiment très bien pour le coup, et que j'ai perdu. J'aimerais bien le retrouver.
Oh. Où es-tu, petit livre? Est-ce que tu pourrais réapparaître devant nous?
Il y a une édition qui se balade dans Rennes, là, du coup, je sais pas où je l'ai paumé, mais je crois qu'il est tombé de mon sac. Donc n'hésitez pas à lire si vous le trouvez. Et puis,
envoyez un message à Charlie.
J'ai pris des notes dedans.
@charlinx, vous retrouvez ce petit livre égaré. Voilà. Eh ben écoute, voilà, c'est la fin de ce podcast.
Merci beaucoup.
J'espère que vous avez aimé, j'espère que cet épisode ne sera pas non plus trop long. Écoutez, genre, je sais que c'est essentiellement ma famille et mes proches, mais bon, merci quand même de votre écoute, merci pour votre fidélité, ça me fait trop plaisir. Et j'espère que ça vous intéresse, tout ce qu'on dit, qu'on n'est pas non plus... Voilà, que ça vous intéresse.
Coucou maman.
Voilà, et écoutez, on vous fait des bisous, on espère que vous allez bien voter demain. Et à bientôt, Charlie.
Eh bien, à bientôt, Louise.